Du côté français, on voulait signifier que les terres de Confins, saisies sous le règne précédent pendant la campagne commandée par Charles de Valois, resteraient directement rattachées à la couronne de France. Ce n'était que la confirmation d'un état de fait. Pour l'Angleterre, les termes « tout autre pour lui ou par lui » étaient une allusion à la minorité du roi et à l'existence du conseil de régence. Mais le « par lui » pouvait également concerner dans l'avenir les attributions du sénéchal en Guyenne, ou de tout autre lieutenant royal. Quant à l'expression « aucun droit nouveau », elle constituait un entérinement de droits acquis jusqu'à ce jour, c'est-à-dire y compris le traité de 1327. Mais ce n'était pas dit explicitement. Ces déclarations, comme celles généralement de tout traité de paix ou d'alliance depuis le début des âges et entre toutes nations, dépendaient entièrement pour leur application du bon ou du mauvais vouloir des gouvernements. Pour l'heure, la présence des deux princes face à face témoignait d'un désir réciproque de vivre en bonne harmonie. Le chancelier Burghersh déroula un parchemin où pendait le sceau d'Angleterre et lut au nom du vassal « Sire, je deviens votre homme de la duché de Guyenne et de ses appartenances que je clame tenir de vous comme duc de Guyenne et pair de France, selon la forme des paix faites entre vos devanciers et les nôtres, et selon ce que nous et nos ancêtres, rois d'Angleterre et ducs de Guyenne, avons fait pour la même duché envers vos devanciers, rois de France. » Et l'évêque tendit à Mils de Noyers la cédule qu'il venait de lire et dont la déclaration était fort écourtée par rapport à l'hommage-lige. Mils de Noyers dit alors en réponse « Sire, vous devenez homme du roi de France, mon seigneur, pour la duché de Guyenne et ses appartenances, que vous reconnaissez tenir de lui comme duc de Guyenne et pair de France, selon la forme des paix faites entre les devanciers rois de France et les vôtres, et selon ce que vous et vos ancêtres, rois d'Angleterre et duc de Guyenne, avez fait pour la même duché envers ses devanciers rois de France. » Tout cela pourrait fournir belle matière à procédure le jour qu'on cesserait d'être d'accord. Édouard III dit alors « En vérité, » Mils de Noyers confirma par ces mots, « le roi notre sire vous reçoit, sauve ses protestations et retenue de sudite. » Édouard franchit les trois pas qui le séparaient de son suzerain, se déganta, remit ses gants à Lord Montagu et, tendant ses mains fines et blanches, les posa dans les larges paumes du roi de France. Puis les deux rois échangèrent un baiser de bouche. On s'aperçut alors que Philippe VI n'avait pas beaucoup à se pencher pour atteindre le visage de son jeune cousin. La différence entre eux était surtout de corpulence. Le roi d'Angleterre, qui avait encore à grandir, serait sûrement lui aussi de belle taille. Les cloches se remirent à sonner dans la plus haute tour, et chacun se sentait content. Pairs et dignitaires s'adressaient des hochements de tête satisfaits. Le roi Jean de Bohême, sa belle barbe châtaine étalée sur la poitrine, avait une attitude noblement rêveuse. Le comte Guillaume le Bon et son frère Jean de Hainaut échangeaient des sourires avec les seigneurs anglais. Une bonne chose, en vérité, se trouvait accomplie. Pourquoi se disputer, s'aigrir, se menacer, porter plainte devant les parlements, confisquer les fiefs, assiéger les villes, se battre méchamment, dépenser or, fatigue et sang de chevalier, quand avec un peu de bon vouloir, chacun mettant du sien, on pouvait si bien s'accorder. Le roi d'Angleterre avait pris place sur le trône préparé pour lui, un peu au-dessous de celui du roi de France. Il ne restait plus qu'à entendre messe. Pourtant, Philippe VI paraissait attendre quelque chose encore. Et, tournant la tête vers ses pairs, cherchait du regard Robert d'Artois, dont la couronne dépassait de haut toutes les autres. Robert avait les yeux mi-clos. Il essuyait de son gant rouge la sueur qui lui coulait des tempes, encore qu'il fît dans la cathédrale une bienfaisante fraîcheur. Mais le cœur lui battait vite en cet instant. Et n'ayant pas pris garde que son gant déteignait, il avait comme une traînée de sang sur la joue.